With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ça, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Julie a démarré sa carrière dans la finance aux Émirats arabes, puis au Luxembourg où elle a eu son premier bébé. Une grossesse sereine, pas de pression pour son retour au travail car là-bas, le congé parental est payé intégralement. Mais elle va écourter son congé parental car une entreprise souhaite la recruter et lui fait une offre attrayante. Rapidement, après la prise de ses nouvelles fonctions, Julie découvre qu'elle est de nouveau enceinte et en informe sa hiérarchie. Quelques jours plus tard, elle est licenciée sans préavis car au Luxembourg, une fin de contrat prend effet immédiatement. Alors Julie se retrouve comme dans les films à rassembler toutes ses affaires dans un petit carton et quitte les lieux dévastés. Mais le plus dur reste à venir, car la loi étant de son côté, Julie va être réintégrée à son poste et l'ambiance au bureau est très pesante. Elle se sent mise à l'écart et vue comme une profiteuse qui aurait accepté une offre d'emploi, sachant qu'elle allait être enceinte. Alors après la naissance de son deuxième bébé, elle et son mari décident de rentrer en France. Julie intègre une nouvelle entreprise, tombe enceinte une nouvelle fois et découvre la différence de suivi après l'accouchement. Elle commence à envisager un changement de carrière, laissant de côté la finance pour accompagner les mamans dans les débuts de leur maternité. Étant elle-même en plein postpartum et en manque de sommeil, elle se forme sur ce sujet épineux des nuits courtes. Bonne écoute.
Bonjour Julie.
Bonjour Shane.
Merci de partager ton histoire dans Le Tourbillon.
Merci à toi de m'avoir sollicité.
Avec grand plaisir. Alors toi, tu es la maman de 3 enfants. Quel âge ils ont ?
Alors, Céleste va avoir 7 ans, Eugène a 5 ans et demi et Olympe 2 ans et demi.
Alors, on va revenir avant ta maternité. Toi, quel regard tu portais justement sur la maternité avant d'être mère ? Est-ce que c'est quelque chose dont tu rêvais absolument ou c'était pas trop un sujet pour toi ?
Oui, c'était un rêve. C'était un rêve d'avoir des enfants. Le nombre, je savais que ça allait être potentiellement une grande fratrie. Ça m'avait toujours fascinée et vraiment attirée. Après, oui, j'ai toujours su que je voulais être maman, bien sûr.
Et alors, comment est arrivé le sujet ? À quel âge tu avais ?
Le sujet est arrivé vraiment très naturellement. J'ai rencontré mon mari aux Émirats Arabes Unis lorsqu'on travaillait là-bas. Et puis, tout doucement, au fil de nos carrières respectives, le sujet des enfants est venu sur la table. Et c'est vrai que c'était un projet commun. Donc, j'ai envie de dire que ça s'est fait très naturellement. Après, je suis devenue maman à 30 ans. Donc voilà, c'était pas forcément prémédité. Là, je n'étais pas préméditée, mais c'était plus dans la construction de notre couple et de nos projets professionnels en parallèle. C'était le bon moment, tout simplement.
Et vous faisiez quoi alors tous les deux comme métier ?
On travaillait tous les deux en finance. Moi, je travaillais pour la société Thales aux Émirats Arabes Unis. J'avais eu la chance de partir aux Émirats Arabes Unis rapidement après mon école de commerce. Et mon mari travaillait, lui, en banque.
Du coup, tu avais un rythme un petit peu intense, j'imagine, dans la finance ?
Oui, le rythme était intense et trépidant, j'ai envie de dire. C'était une grande source d'épanouissement. Et c'est vrai que voilà, ce premier enfant a bien sûr rabattu les cartes et m'a aussi fait toucher du doigt que peut-être c'était plus vraiment ce qui me correspondait.
Ouais. Et justement, c'est par rapport à ta carrière professionnelle que tu as, alors je vais dire tardivement, mais je mets des gros guillemets, hein, parce qu'on parle de 30 ans, mais c'est pour ça que tu as pris la décision un peu plus tard de faire un enfant.
Non, alors l'âge finalement c'était parce que on était quand même pas forcément fixé géographiquement. Donc, la décision à un moment donné, voilà, de se lancer dans ce projet d'enfant coïncidait avec une stabilité, on va dire géographique. Mais c'est vrai que oui, voilà, le rythme professionnel était bien sûr à un moment donné dans le démarrage de carrière, bien sûr un frein. C'était aussi pas forcément envisageable d'avoir un tout petit avec des horaires de clôture comptable et de bilan financier à restituer. Donc c'est vrai que c'était aussi voilà, beaucoup de bon sens et qu'on voulait aussi faire les choses correctement, tout simplement.
Et au moment où justement tu as découvert ta grossesse, ou même avant, quand le projet est arrivé sur la table, comment t'envisageais de concilier ta vie pro et ta vie perso?
Alors, comment j'imaginais finalement cette grossesse et la venue de ce bébé? Avec beaucoup d'insouciance, finalement. Je savais que c'était le bon moment, donc pour tout te dire, j'avais pas vraiment fait de plan sur la comète. C'était voilà, je laissais venir les choses, je vivais au mieux voilà ce laps de temps et je savais que j'allais profiter complètement de cette grossesse.
Ouais. Et t'avais prévenu du coup tes employés, ça avait été un sujet ou pas du tout cette grossesse?
Oui, j'avais prévenu mes employeurs. Il y avait vraiment pas de sujet parce que c'est vrai que le fait d'avoir eu ce premier bébé au Luxembourg, c'était vraiment un cadre privilégié, ça c'est sûr, parce que je savais que devant moi, j'allais pas remettre mon tout petit bébé en structure collective ou même chez une nourrice à l'âge de 4 mois. Je savais que j'avais beaucoup beaucoup de temps devant moi. J'avais du temps et c'est vrai que ça c'était confortable parce que j'avais aussi un projet d'allaitement et je savais que potentiellement je pouvais garder ma petite fille jusqu'à au moins 1 an. Donc ça c'était très confortable et c'est sûr que ça avait généré beaucoup de sérénité et beaucoup voilà, beaucoup d'aisance dans le démarrage de cette grossesse, tout simplement.
Et alors, comment s'est passée cette grossesse?
Alors, cette grossesse, ça a été vraiment extraordinaire. C'était pour moi une révélation. J'ai adoré être enceinte et voilà, ça a été le cas après pour les autres qui ont suivi. Mais c'est vrai que c'était 9 mois de bonheur. Pour moi, j'ai eu aucun désagrément. J'ai vraiment aimé être enceinte.
Ouais. Donc là, tu étais au Luxembourg. Est-ce que, comment ça se passe là-bas quand on est enceinte? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui sont mises en place?
Alors, j'ai envie de dire que le suivi est sensiblement le même qu'en France. Après, je vais dire que c'est plus dans la manière dont tu es intégrée dans la société. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de mamans finalement qui sont dans des longs congés maternité, des longs congés parentaux. Donc c'est vrai qu'autour de moi, de par mon âge, mon entourage et mes amis étaient potentiellement sur ce laps de temps où on pouponne. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'interactions. Je me suis pas du tout sentie isolée. Je me suis au contraire sentie très épaulée. J'ai vécu ces quelques mois, ces 9 mois de grossesse avec un cercle amical et vraiment très aidant, très très épaulant. Donc c'est vrai que c'était une magnifique grossesse.
Et au niveau du suivi médical, il y a des choses particulières mises en place là-bas ou c'est...
Le suivi médical est le même qu'en France, avec les mêmes délais en termes de d'échographie morpho, etc. C'est à peu près la même chose. Donc après je savais pas ce qu'était le suivi en France, mais c'est vrai que c'était tous les mois des examens assez réguliers, mais c'était pas du tout un contexte. En tout cas, moi je l'ai pas perçu comme un contexte anxiogène, et au contraire j'ai trouvé que les professionnels de santé étaient très relax par rapport à tous ces suivis et justement c'est ce qui a permis aussi de vivre cette première expérience de maternité avec beaucoup de calme et de sérénité.
Et alors, est-ce que tu avais fait un projet de naissance?
Non, pas du tout. J'avais pas fait de projet de naissance. Je savais que j'allais accoucher en clinique et j'avais pas de planification. Donc, je me suis vraiment laissée porter pour cette première naissance.
Ouais. Il y avait une préparation à l'accouchement comme en France, pareil, c'était...
Oui, il y avait une préparation à l'accouchement, il y avait des sessions et des cours qui étaient donnés par des professionnels de santé où bien sûr le papa pouvait venir. Donc c'était vraiment très bien préparé, je veux dire, on n'était vraiment pas lâchés dans la nature, loin de là.
Et alors comment ça s'est passé le jour J, la rencontre?
Écoute, le jour J, elle a été fidèle à ses 9 mois. L'accouchement s'est très bien passé. La rencontre a été merveilleuse. Donc c'est vraiment comme dans l'imaginaire et comme dans mon imaginaire. Et c'était un bel accouchement.
Oui. Donc tu disais que tu avais un projet d'allaitement. Est-ce que tu as pu le concrétiser?
Oui, j'ai pu le concrétiser. parce que j'ai trouvé que j'étais extrêmement bien accompagnée, que les gens étaient extrêmement calme et extrêmement patient dans cette mise au sein. J'ai trouvé que les gens étaient bienveillants, qu'il n'y avait pas de critiques ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que le démarrage de l'allaitement s'est bien passé et finalement, ça a teinté aussi cette aventure que j'ai eue avec Céleste parce que je l'allaitais aussi assez longtemps. Mais c'est vrai que c'était un contexte, on va dire... Tout était réuni finalement, l'allaitement a bien débuté parce que je pense que je suis tombée sur des personnes compétentes, qualifiées, qui m'ont donné à l'époque les bons gestes et surtout les bonnes attitudes à adopter. Et puis bien sûr le fait d'avoir cette échéance temps finalement qui était pas pressurisante et qui était quand même très confortable. Il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas forcément un besoin peut-être de bifurquer sur du biberon parce que j'allais avoir un mode de garde pour Céleste. Je savais que j'allais la garder avec moi, donc c'est vrai que le sujet de l'allaitement il a été très naturel et il s'est poursuivi finalement sans heurts finalement sur le chemin parce que je savais que j'avais potentiellement un an avec ma petite fille.
Est-ce qu'il y a un suivi comme aux Pays-Bas, on connaît les Kramzorg là-bas? Tu as la même chose au Luxembourg?
Oui, alors c'est pas les Kramzorg, mais c'est vrai qu'il y a des sages-femmes qui sont effectivement que tu choisis à la sortie de la maternité, qui t'accompagnent pendant un mois, qui viennent te voir à la maison. Moi, je sais que la mienne, au démarrage, elle venait me voir tous les soirs pour voir si la journée s'était bien passée, la mise au sein avait été concluante, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu un soutien émotionnel, je veux dire psychologique, assez impressionnant. Et ça, clairement, ça a contribuer à pas flancher tout simplement et à se sentir extrêmement soutenue parce que mon mari avait repris le travail, j'étais toute seule, j'habitais au Luxembourg, j'avais pas ma famille, donc j'avais certes mes amis, mais c'était j'étais quand même seule avec mon bébé. Donc le fait d'avoir eu une professionnelle de santé qui m'a épaulée dans ce démarrage, ça a été la clé de la réussite, clairement.
Ton mari, il a dû reprendre le travail au bout de combien de temps?
Rapidement, peut-être une semaine. Il avait peut-être cumulé quelques congés, mais il a repris rapidement. Et puis après, il était là le matin et le soir. Donc voilà, ça nous convenait dans notre organisation. Mais ça n'a pas été pour moi difficile de qu'il reprenne le travail parce qu'il a poursuivi son aide logistique, on va dire, quand il ne travaillait pas. Mais ce qui m'a vraiment aidée, c'est d'avoir une sage-femme qui venait me voir et qui comprenait ce que je vivais, tout simplement, qui rectifiait, par exemple, les positions pour la mise au sein qui, parfois, n'étaient pas les bonnes, qui me rassurait sur des petits blocages. Finalement, ce qui peut entacher un allaitement, elle était là pour vraiment désamorcer des éventuelles inquiétudes. Et c'est ça qui a fait toute la différence, clairement.
Et alors, comment se passe ton congé parental? Ça dure combien de temps, au final? Combien de temps tu prends pour rester avec ton bébé?
Alors moi, j'ai eu mon congé maternité, j'ai enchaîné sur un congé parental. Le gros avantage que tu as au Luxembourg, c'est que tu peux effectivement enchaîner sur un congé parental qui est pris en charge en totalité par ton employeur. Donc c'est vrai que au niveau financier, tu as quand même une certaine sécurité. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi un point en moins. Après, moi, il s'est trouvé que j'ai repris le travail avant les 12 mois de Céleste parce que la conjoncture, on va dire, métier et professionnel a fait que. Mais si j'avais souhaité rester 12 mois avec Céleste, ça aurait tout à fait été envisageable.
Et comment ça s'est passé alors? Parce que parfois, on a envie de rester le plus longtemps possible avec son enfant et d'un côté, on peut aussi trouver des journées un peu longues. Comment tu t'organisais, toi?
Alors moi, je m'organisais avec vraiment un réseau d'amis. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir simultanément deux très bonnes copines avec qui on a accouché peu d'écart, peu de semaines de différence. Donc ça, c'est vrai que ça a été formidable parce que on a vécu cette maternité vraiment en symbiose. On n'était absolument pas dans l'isolement. Et on se retrouvait, j'ai des souvenirs, on se faisait aller chacune amener quelque chose, une quiche, une salade, un dessert, et hop, on faisait un petit peu un déjeuner sur le pouce, mais le résultat, c'était de partager un petit peu les journées qui étaient compliquées, et forcément, quand t'as un tout petit bébé, tout n'est pas tout rose, donc c'est vrai que l'environnement amical, pour moi, ça a été une bouffée d'oxygène, ça c'est sûr.
Et alors, le moment du retour au travail, comment ça s'est passé ?
Alors, le retour au travail était absolument pas prémédité. C'est-à-dire que moi, je pensais reprendre quand Céleste aurait un an. Et il se trouve que, à l'époque, j'ai été chassée par un recruteur au Luxembourg et j'ai démarré sur un nouveau poste quand Céleste avait 9 mois. Donc, c'était une période qui me semblait aussi convenable parce que la lactation était bien installée. Donc, il n'y avait pas de sujet à ce niveau-là et que on pouvait mettre en place une tétée le matin et le soir, c'était confortable, mais c'était absolument pas prémédité ce retour au travail. Après, voilà, les circonstances professionnelles ont fait que c'était une belle proposition, donc je suis partie sur cette direction-là, mais c'est vrai que c'était pas du tout calculé.
Donc là, tu démarres un nouveau boulot. Comment tu gères ta maternité et ta vie professionnelle ?
Alors, je démarre ce nouveau poste qui est extrêmement demandeur en termes d'amplitude horaire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, heureusement que j'ai mon mari j'ai des souvenirs qui dépose tous les matins Céleste à la crèche, qui la récupère. Et c'est vrai que sans son aide, j'aurais pas pu m'investir à ce démarrage sur ce poste-là. Et il se trouve que très rapidement, je me plais dans ce que je fais. Et finalement, les regrets et peut-être l'angoisse de laisser son petit bébé, laisse place aussi à un nouvel épanouissement professionnel, de nouveaux challenges. Donc, c'est quelque chose que j'arrive à concilier correctement et que je vis bien finalement.
Et alors, au bout de combien de temps vous décidez de faire un deuxième bébé ?
Alors, absolument pas calculé. Je tombe très rapidement enceinte de gêne. Et cette grossesse, ce démarrage de grossesse se fait très, très rapidement parce que je n'étais pas sous contraception, parce que Céleste t'était encore. Et c'est vrai que, c'était pas quelque chose qui était prémédité, mais le corps faisant, je suis retombée enceinte. Et simultanément, il y avait cette prise de poste qui était là. Donc, ça a été compliqué, ça a été une grande angoisse hein, mêlée à beaucoup de joie, de revivre de revivre une grossesse. Mais ça a été beaucoup de culpabilité et une culpabilité finalement qui a donné lieu à par la suite, un changement de cap. Mais c'est vrai que c'était compliqué pour moi parce que je m'en voulais énormément. Je me disais, on est venu me chercher et là, je leur file un peu entre les doigts. Donc c'était énormément de culpabilité et j'ai vraiment tardé avant de l'annoncer parce que je me sentais vraiment mal, très mal.
Tu l'as annoncé au bout de combien de temps ?
Quand ça commençait à se voir, parce qu'à un moment donné, je pouvais plus forcément, surtout un deuxième bébé, ça commençait à s'arrondir assez rapidement, je dirais au bout de trois mois. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais licenciée, en fait. J'ai été vraiment mise à la porte, comme aux États-Unis, hein, sur la période des subprimes. Donc, on m'a convoquée, on m'a dit, tu vas chercher tes affaires dans le casier au rez-de-chaussée, parce que entre midi et deux, j'allais au sport. Donc, on m'a accompagnée. J'ai un souvenir où la responsable des ressources humaines m'accompagne à mon casier. Je récupère mes baskets, ma tenue et on me reconduit à la sortie finalement. Et là, j'ai un souvenir de par automatisme de prendre mon téléphone, d'appeler mon mari en pleurs en lui demandant de venir me chercher, que je suis à la porte et que je suis sur le trottoir. Donc, vite, viens me chercher. Donc ça a été extrêmement traumatisant parce que absolument pas préparé et ça... C'est une violente claque qu'on se prend à la figure en moins de 30 secondes.
C'était à quel moment après que tu as annoncé ta grossesse ?
Très rapidement. Très rapidement. Et la chance dans tout ça, c'est que je l'avais annoncé. Donc, en revanche, le certificat n'avait pas été encore fait par le gynécologue. Donc, la grande chance que j'ai eue dans tout ce malheur, finalement, c'est que l'entreprise dans laquelle j'étais a été saisie, en fait, par le tribunal. Et j'ai été, par la suite, réintégrée à la masse salariale. Donc ça a été encore plus compliqué parce que avec mon gros ventre, j'ai dû revenir au travail et là, forcément, subir les critiques, les moqueries et avoir le rôle de, être la personne qui avait profité un petit peu du système pour rapidement avoir son deuxième bébé, profiter un petit peu voilà de ce poste que je venais de prendre et d'avoir la sécurité de l'emploi. Donc c'était très difficile parce qu'il y a eu il y a vraiment eu un aspect émotionnel et affectif qui a été traumatisant dans cette grossesse dans la grossesse clairement.
Parce que du coup, quand il te renvoie, c'est toi qui fais appel à un avocat immédiatement pour dire
Oui. Quand, si tu veux, il me renvoie, je sollicite un rendez-vous avec un avocat. Simultanément, je préviens mon gynécologue qui me fait un certificat attestant de la datation, voilà, de la grossesse. Donc tout se met en place très rapidement. Moi, si tu veux, dans le lendemain, j'envoie effectivement le certificat du gynécologue en courrier recommandé au service RH, et tout s'enchaîne très rapidement, si tu veux. L'employeur est saisi par le tribunal et vite je suis réintégrée au salarié, donc ça se fait très rapidement. Mais si tu veux, dans ce laps de temps, il y a aussi une descente un peu aux enfers parce que je me sens complètement bafouée. Donc j'ai quand même un certain laps de temps où je suis en arrêt de travail, mais au bout d'un moment, cet arrêt de travail, tu peux pas le poursuivre indéfiniment, donc je suis obligée de revenir au travail. Et c'est ça, si tu veux, dans ce cheminement qui est le plus difficile, parce que tu te confrontes à des gens qui clairement te font porter le rôle de la profiteuse. Et ça, c'était le plus dur finalement.
Parce que eux, t'avais donné quoi comme raison de licenciement? J'imagine qu'ils ont dû écrire quelque chose pour...
Oui, alors ils avaient donné une moindre performance. Et c'est vrai, parce que dans ce démarrage de grossesse, j'étais extrêmement fatiguée. Donc l'amplitude horaire, au lieu de faire du 7h, 23h, elle n'était plus que de 8h, peut-être 18h. Donc c'est vrai qu'il y avait une moindre performance. Ça, c'est sûr, sur le papier, elle était là. Après, voilà, dans l'esprit commun, faire 8h, 18h, c'est déjà des grosses journées, mais c'était pas suffisant, si tu veux, dans cette logique de performance dans laquelle j'étais à l'époque, et surtout dans l'institution où je me trouvais à l'époque, c'était pas assez. Surtout que je me confrontais à un monde extrêmement masculin, donc je me devais d'être au niveau de mes collègues qui étaient des hommes et qui n'avaient potentiellement pas, si tu veux, cette logistique à gérer, parce que peut-être qu'il y avait madame qui gérait. Donc c'est vrai que effectivement l'amplitude horaire était sacrément dégrivée.
Et t'as trouvé des alliés quand même au travail ou pas du tout?
Non, absolument pas. J'ai trouvé aucun allié et c'est surtout beaucoup d'isolement, parce que j'ai des souvenirs à le midi manger toute seule ou partir, tu vois, sortir, prendre l'air parce que je me sentais extrêmement mal. J'ai des souvenirs à m'isoler dans les toilettes, à me mettre à pleurer. Oui, c'était très difficile parce que on m'avait clairement fait comprendre que j'avais profité du système.
Et alors, hormis ce pan de ta grossesse qui devait être assez difficile, physiquement, comment ça se passait? Est-ce que ça allait comme la première grossesse? Ça se passait bien?
Oui, physiquement, ça se passait très bien. Alors, je suis allée au bout, finalement, du délai légal pour partir en congé maternité. Donc, ça s'est plutôt, physiquement, ça s'est bien passé. Émotionnellement, un peu moins. Mais en tout cas, j'ai pas eu de tracas de grossesse plus que ça. Et puis après, une fois que j'étais en congé maternité, j'étais surtout libérée.
Ouais.
Libérée de plus devoir aller me confronter à ces personnes qui avaient été extrêmement malveillantes et surtout pas du tout aidantes dans ma situation.
Mais alors, il y a un moment où tu savais que tu devrais reprendre le travail, donc c'est peut-être quand même un petit poids qui reste dans un coin de ta tête, même pendant ton congé mat.
Oui, ça a été difficile. Après, je savais que j'allais de toute manière prendre un congé parental, donc je savais que j'avais quand même une échéance temps qui me mettait pas la pression. Mais tout ça, si tu veux, ça a été aussi une mûre réflexion qui s'est menée aussi à l'époque avec mon mari, parce que on a à un moment donné pris la décision de rompre un peu avec ce système qui ne nous convenait plus, peut-être nous avait déçus à un certain moment, et on a pris la décision de rentrer en France peu de temps après la naissance de Jeanne.
D'accord. Donc, vous avez tous les deux démissionné de vos postes respectifs?
Alors, non, mon mari, lui, il a eu une mobilité. Donc, il a eu la grande chance d'avoir une mobilité, de prendre la direction du sud-ouest de la boîte dans laquelle il était. Ben, moi, j'étais en congé, si tu veux, j'étais en congé maternité, puis en congé parental. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai pas démissionné, je n'ai rien fait. Après, j'allais simplement mettre un terme à tout ça une fois, peut-être, remonter la pente, si tu veux, de tout ce choc émotionnel que j'avais subi. Mais en tout cas, il y avait pas de grosses mesures à prendre au niveau professionnel. Les choses se poursuivaient. Moi, je poursuivais mon congé mat et le parental. Et puis, mon mari, lui, avait eu cette mobilité. Donc, c'était plutôt, on va dire que les planètes étaient assez bien alignées, finalement, pour ce retour en France.
Parce que tu pouvais déménager tout en étant encore en contrat avec le Luxembourg ?
Oui, tout à fait. On pouvait déménager et effectivement mettre en place le suivi de conjoint. Donc ça ne posait pas de problème. Et j'ai perçu effectivement tout ça, même à mon retour en France. Donc là, il n'y avait aucun sujet à ce niveau-là.
Et alors, à quel moment tu décides de rompre définitivement et avec cette entreprise et avec le monde de la finance ?
Je pense. Alors, ça s'est passé quand Eugène avait un an et demi, donc vraiment à la fin de mes droits de congés parentaux. Donc là, j'ai vraiment démissionné. Donc voilà, ça se faisait formellement par un courrier en air. Donc c'est vrai que ça a été fait à ce moment-là, et c'était effectivement un gros soulagement. Après, je savais pas dans quoi j'allais m'embarquer, mais en tout cas, c'était un soulagement à ce niveau-là. C'était surtout une page qui se tournait, parce que finalement, même si j'avais été en congé maternité puis en congé parental, j'avais quand même ce sacré boulet que je me traînais à la cheville, et me dire ok, la page elle est pas totalement refermée, le chapitre a besoin d'être clos une bonne fois pour toutes.
Donc là, te voilà maman de deux enfants sans travail. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Est-ce que tu te dis waouh, dans quoi je m'embarque ? Ou dans quoi je vais m'embarquer ? Parce que du coup, tu n'as aucune idée de ce que tu vas faire.
Non, je suis assez sereine. Après, je sais que je vais trouver quelque chose, quoi qu'il arrive, parce que j'ai jamais vraiment eu de trou. Donc, je sais, enfin, de trou, on va dire, professionnellement parlant. Donc, je sais que ça va le faire. Après, je ne sais pas dans quel environnement. Mais je suis assez confiante, je suis assez optimiste, donc je postule un peu à droite à gauche, mais je sais que ça va aboutir, et finalement ça aboutit. Donc Eugène a 2 ans quand je reprends un poste ici à Toulouse, dans ce que je sais faire, donc dans le contrôle budgétaire. Donc ça se passe très bien, c'est un poste qui se passe à merveille, avec une équipe formidable, avec une hiérarchie aussi formidable. Donc je renoue un petit peu avec l'aspect professionnel, avec un monde et un environnement sain, et surtout des collègues sains, on va dire. Donc oui, voilà, cette aventure professionnelle se poursuit. Alors pas dans le même secteur, mais en tout cas dans ce que moi je sais faire professionnellement.
D'accord. Et alors, à quel moment vous décidez de faire un petit troisième ?
Écoute, c'est pas forcément prémédité. C'est je savais qu'il y avait un troisième qui devait arriver, et puis ça arrive, assez naturellement. Je tombe enceinte en 2019, donc Eugène a 2 ans, et arrive très rapidement le confinement. Donc toujours pareil, je pense un bon alignement des planètes et un aspect professionnel qui se met complètement en stand-by, et peut-être aussi une mise en arrêt d'un engrenage professionnel qu'on n'a pas su à un moment donné analyser. Et j'en viens à me poser, à me dire, est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça ? Et là, ça amorce une vraie prise de conscience et une envie de changer, tout simplement.
Tu as eu peur d'annoncer ta grossesse à ce... Parce que c'était encore un nouveau travail, finalement. Ça faisait combien de temps, là, que tu étais...
Oui, j'ai eu très peur. Et finalement, je l'ai annoncé, mais l'accueil de cette nouvelle n'a tellement pas été la même qu'au Luxembourg, que ça m'a vraiment réconciliée avec, avec la hiérarchie, avec le genre humain, tout simplement. Mais c'est vrai que ça m'a réconciliée, oui.
Ouais. Tu l'as annoncé tout de suite ou t'as attendu un petit peu, t'as réfléchi à comment faire ?
J'ai attendu un petit peu, mais je l'ai vraiment annoncé au quatrième mois, parce qu'aussi ça commençait à être difficile à cacher, mais ça s'est bien, vraiment bien passé.
Ouais. Et tu demandais des conseils autour de toi pour savoir comment faire, pour que ça se passe au mieux. Enfin, je sais pas, j'imagine quand t'es traumatisée par une annonce à ton travail, après t'as peut-être peur de mal faire les choses.
Oui, c'est sûr que j'étais vraiment mal à l'aise. Finalement, je me disais de nouveau que vont penser les gens, etc. Mais finalement, je pense que j'avais pris beaucoup de recul par rapport à tout ça, et je me suis avant tout dit que c'était mon choix, que c'était notre choix, et que les critiques et peut-être voilà les a priori des gens, c'était le cadet de mes soucis. Donc ça s'est fait assez naturellement et je pense que finalement la décision d'annoncer la grossesse dans un laps de temps assez raisonnable, elle était aussi payante parce que je l'ai annoncé en toute honnêteté. C'était pas du tout lié avec quelque chose de prémédité. C'était simplement un projet familial qui était le nôtre et qui arrivait à ce moment-là.
Ouais. Ça faisait combien de temps que tu travaillais là-bas?
Ça faisait un an et demi.
Ouais. Alors comment se passe cette grossesse, j'imagine, plus sereinement que la deuxième?
Cette grossesse se passe de nouveau très bien. Donc vraiment, j'ai de la chance. Ça se passe très bien. En plus, on est aussi dans notre bulle parce qu'on est confiné en mars 2020 et Olympe naît au mois de juillet. Donc on est vraiment dans notre petite bulle, hein, tous les quatre, avec ce bébé qui grandit bien. Donc ça se passe très bien. Vraiment... je vis une superbe grossesse et bon, physiquement, bien sûr, un peu plus éreintante, on va dire, que les premières, parce qu'il y a quand même deux enfants à gérer. Ils sont aussi pas très grands. Il y a aussi l'école qui est suspendue. Donc, c'est vrai que c'est aussi, on va dire, fatigant au niveau physique parce que je me rappelle, à l'époque, on a des escaliers. Donc, je sais que je porte encore pas mal le gène. Il dort encore dans le lit à barreaux. Donc, tout ça fait que... il y a quand même une certaine aptitude physique qui n'est plus au rendez-vous parce que ça fait quand même trois grossesses rapprochées et le corps, il en prend quand même un petit coup.
Et alors là, tu accouches en France, donc plus au Luxembourg. Donc, c'est pour la première fois que tu fais un accouchement ici en France. Est-ce que tu as noté des différences? Comment ça s'est passé par rapport aux deux premiers?
Oui, j'accouche en France, en clinique. Et là, alors moi, je vis mon accouchement, à merveille, ça se passe super bien. Mais c'est vrai que les premiers jours sont compliqués parce qu'on est dans un contexte où c'est une clinique où l'allaitement n'est pas forcément la norme. Et Olympe perd un petit peu de poids, ce qui est tout à fait normal. Et il y a vraiment ce réflexe de me poser. J'ai des souvenirs, on me pose sur la table de nuit des compléments de petits biberons. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette volonté de poursuivre cet allaitement et enfin en tout cas de perdurer, de vivre un troisième allaitement. Et c'est vrai que je suis quand même en face d'une équipe qui a quand même des normes en tête et c'est vrai que la perte de poids est très anxiogène parce que j'ai des souvenirs où on me pèse Olympe avant la tétée, après la tétée. Et moi, je sais que ma montée de lait, elle n'est pas immédiate, donc elle met quand même un certain temps, elle met 3 jours. Donc, je suis sereine et je tiens tête à l'équipe soignante et je leur dis que non, je sais comment ça va se passer. Mais je sais très bien que si je n'avais pas tenu tête, j'aurais peut-être mis à mal un démarrage d'allaitement. Et ça, je trouve ça dommage parce que j'imagine une maman qui accouche de son premier enfant dans ce contexte, ça peut être très déroutant.
Ouais. Et là, t'as pas de sage-femme pour ton postpartum, en tout cas pas avec un suivi aussi régulier.
J'ai pas de sage-femme. C'est Olympe, elle fait une jaunisse carabinée, donc pendant un mois elle est jaune, pas possible. Donc c'est vrai que c'est très dur parce que on n'a pas de visite et quand tu sollicites des sages-femmes, elles sont pas tout de suite disponibles. Donc c'est quand même très déroutant. Après cumulé à cette jaunisse, moi j'ai une énorme mastite, donc je sais un petit peu, j'ai les premiers réflexes, mais c'est très difficile. J'ai quand même des excès de fièvre, etc. Mais ça va. Je tiens le choc parce que je sais que ça va aller mieux et je sais, j'ai les bons gestes. Mais c'est compliqué. Je me dis, mais dans quel pays sommes-nous? On est lâchés en pleine nature, c'est pas possible. Et donc là, je me dis, ok, c'est comme ça pour un postpartum en allaitement, mais c'est peut-être comme ça pour plein de sujets sur la convalescence de la maman si tu subis une césarienne, etc. Donc je me dis, c'est pas possible. Et là, chemine vraiment ce projet d'accompagnement, d'être au plus près des mamans et vraiment germe dans ma tête une idée professionnelle d'être au service des mamans tout simplement et de vraiment les aider. Mais c'est encore très flou dans ma tête.
Ouais. Alors comment ça se passe ce postpartum pour toi ?
Le postpartum se passe très bien. Puisque Olympe grandit très bien et puis on est dans un contexte familial qui est hyper privilégié, donc on a du soutien, donc ça se passe à merveille tout simplement. Et puis bien sûr on est encore confiné, donc on a quand même le luxe d'être entre nous et d'avoir un papa qui est là vraiment à temps plein, donc c'est c'est vraiment très confortable.
Oui. Oui, parce qu'à défaut de ne pas avoir la sage-femme, là, tu as le mari qui est présent 24/24. Avec les contraintes, bien sûr, du travail à la maison,
oui.
des enfants à garder, etc. Et de tout le contexte sanitaire qui peut être aussi un peu angoissant.
Oui.
Mais au moins, vous êtes dans votre bulle tous les cinq.
Oui, c'est ça, on est dans notre bulle, dans notre petite bulle de bonheur et tout se passe bien, vraiment.
Donc, tu as cette petite idée qui a germé, enfin, en tout cas, tu as déposé la petite graine de cette idée d'accompagnement. Est-ce que tu mets ça de côté et tu continues ta vie de maman ?
Oui, je mets ça de côté, je me dis ok, recentre-toi, est-ce que c'est pas une lubie ? Et puis non, ça suit son cours. Et puis voilà, j'ai envie de me former, donc je sais pas vers quel domaine je vais m'orienter, mais en tout cas, je sais que c'est un rapport avec la petite enfance. Je sais que c'est vraiment très ancré en moi, que j'ai envie d'accompagner ces mamans sur ces quelques mois, sur ces quelques années qui ponctuent finalement les premières années des enfants, et j'ai envie de les accompagner. Alors je sais pas dans quel domaine. Après, je suis très sensible à l'allaitement, donc je me rattache assez rapidement à la Leche League, à l'entité Haute-Garonne, donc à Toulouse. Donc c'est vrai que je participe aux sessions mensuelles à titre bénévole pour le soutien à l'allaitement maternel, mais je sais pas dans quel contexte je veux aider les mamans. Et le sommeil, il s'impose assez rapidement parce que Olympe ne dort pas vraiment bien.
Ça inspire.
Ça m'inspire et je me dis, c'est pas possible. Est-ce que je vais réussir à trouver un petit peu les clés? Donc, c'est compliqué. Et puis, je décide d'entamer cette formation sur le sommeil qui comporte une partie, on va dire, académique avec des cours et aussi qui cumule une pratique, donc sur 6 mois avec des accompagnements de famille et qui te permettent aussi d'avoir un retour sur les accompagnements et le suivi que tu vas donner à ces familles. Donc, tu as vraiment un retour un petit peu de ce que tu prônes, hein, de ce que tu mets en place. Donc, ça me parle. Donc, je me lance dans cette formation sans avoir en tête à aucun moment que je vais abandonner finalement mon métier de contrôleur financier. Pas du tout. C'était absolument pas décidé. C'était simplement que j'avais le temps, j'avais ce congé parental devant moi et j'avais envie d'en faire quelque chose d'utile. Donc voilà un peu dans quel contexte démarre un petit peu cette formation. Et tout de suite, je vois les effets positifs sur Olympe. En fait, je vois une petite fille qui est reposée, une petite fille qui prend de plus en plus et mieux du poids, qui devient de plus en plus motrice. Donc, c'est vrai que c'est un cercle vertueux qui se met en place. Alors, elle allait très bien déjà, mais c'est vrai que tu touches du doigt quelque chose qui a un sacré cercle vertueux et tu dis c'était ça, à mettre en place des bonnes pratiques. Et je me dis, mais en fait, c'est des choses que tous les enfants pourraient acquérir, qu'on pourrait effectivement, des pistes qu'on pourrait donner au maximum de parents. Et donc, je me décide de me lancer là-dedans, d'immatriculer ma société et d'amorcer un virage professionnel, tout simplement.
Donc là, tu continues quand même, après ton congé maternité et parental, tu reprends ton travail ou tu arrêtes immédiatement ?
Non, je reprends pas mon travail. Je suis tout à fait transparente avec ma hiérarchie en leur disant que je souhaite changer de métier. Et là, je reçois vraiment un accueil fidèle à ce que j'avais reçu à l'annonce de cette grossesse, des gens extrêmement compréhensifs. Donc notre collaboration s'arrête là. Et ça me permet aussi d'être extrêmement libérée pour entamer une nouvelle page finalement.
Ouais. Comment tu te sens au moment où tu changes de voie professionnelle ?
Alors, je me sens avec un énorme syndrome de l'imposteur au-dessus de la tête.
Ah ouais ? Mais est-ce que tu trouves qu'il y a plus de sens dans ce métier que tu as envie de créer ?
Oui, je trouve qu'il y a plus de sens parce que j'ai quand même le passif des quelques familles que j'ai accompagnées au cours de cette formation. Donc, je sais qu'il y a un bien-être qui est notable. Je vois toutes les améliorations qu'il y a eu finalement au sein de ses familles, sur le sommeil de ses tout-petits. Donc, j'en suis convaincue. Je suis convaincue de ce que j'amorce. En revanche, dans quel contexte et dans quel cadre je le mets en place, c'est extrêmement flou et extrêmement hésitant.
Ouais. Comment tu construis petit à petit, du coup, ce métier ?
petit à petit, c'est d'abord des accompagnements de connaissances, d'amis d'eux. Donc, c'est des voilà, ces accompagnements en général que je fais soit gratuitement, soit à moindre coût. Donc, c'est un long cheminement où j'essaye de me prouver à moi-même que bah, je suis valable sur ça. Donc, c'est long. C'est long et c'est pour ça que je parle de ce syndrome de l'imposteur parce qu'il va il m'a poursuivi un certain temps. Oui, ça a été difficile de l'évacuer, surtout que on parle de la France où le parcours académique compte et on est souvent identifié à ce cursus finalement d'études hein, académiques. Et moi, ne venant pas d'une profession médicale, j'ai essuyé énormément de critiques. Donc c'est vrai que c'était difficile de se trouver légitime dans cette nouvelle amorce. Voilà, après voilà, tous ces retours des familles que j'avais accompagnées, ça c'était clairement la plus belle récompense et la meilleure finalement la meilleure carte de visite que je pouvais avoir. Donc
quelles critiques on t'a dit par exemple ?
Bah alors voilà, je vais être tout à fait transparente que j'avais pas un parcours d'EDUXP ou d'infirmière puère, ouais, des parcours on va dire qui font du sens dans cette peut-être dans cet aboutissement sur le consulting en sommeil des enfants. Mais c'est vrai que quand tu as travaillé 15 ans de ta vie en salle des marchés, ben on te demande ce que tu fais là, clairement. Donc c'était oui, c'était très compliqué.
Et les familles alors que tu rencontres ce questionnement autour du sommeil, qui est quand même un sujet voilà, central quand on devient parent. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi ? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent ?
Alors, les problématiques principales qui poussent finalement à consulter, ce sont, on va dire, les réveils nocturnes et les endormissements qui sont compliqués. Après, si tu veux, les objectifs parentaux, ils sont extrêmement diversifiés. Il y a des parents qui vont être satisfaits de se lever plus qu'une fois au lieu de 8 fois. Il y a des parents qui vont être extrêmement exigeants et qui vont vouloir, on va dire, supprimer tous les réveils nocturnes et avoir simultanément un endormissement qui se fait en 5 minutes. Donc, on va dire que les exigences parentales, elles sont très, très, très disparates. Après, moi, quand je commence un accompagnement sommeil, je fais toujours toucher du doigt aux parents qu'en général, là, aujourd'hui, ils consultent, mais la situation, elle est peut-être en place depuis un certain temps. Donc, moi, j'ai pas de baguette magique. Donc, bien sûr que je vais les aider à réajuster tout ce qui a été mis en place sans révolutionner la roue, parce que c'est pas le but. C'est pas le but d'être à l'encontre de la configuration familiale, de tout ce qui est en place. Mais c'est voilà, d'ajuster au maximum les aspects physiologiques pour que l'enfant soit plus serein pour aller au lit et bien sûr se réveille moins la nuit.
C'est quoi ? C'est la mise en place de routines ? Parfois, on passe peut-être à côté de ça ?
Vraiment, sur l'aspect, moi, de mes accompagnements, il y a vraiment 3 versants. Donc, il y a vraiment l'aspect des routines, effectivement, comme tu le dis. Donc, c'est vraiment l'aspect émotionnel et affectif, parce que pour qu'un enfant se sépare bien et puisse dormir toute une nuit complète, c'est aussi parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une routine en place et surtout un quota émotionnel bien rempli pour que la nuit soit stable. Après, il y a un aspect environnemental. Donc, parfois, effectivement, les configurations de chambre ne sont pas en place de manière optimale pour que l'enfant dorme bien. Je pense notamment à la lumière, aux stimuli extérieurs. Et le troisième vecteur, c'est vraiment la configuration de la journée, donc tout ce qui est rythmicité de sieste. Des enfants qui restent trop éveillés ou qui dorment pas assez en journée, forcément, ces aspects-là, ils se répercutent la nuit et ils provoquent une certaine instabilité de la nuit. Donc moi, je vais pas toucher, si tu veux, aux aspects pathologiques, parce qu'il y a des enfants qui sont sous traitement ou qui ont des pathologies particulières. Et effectivement, de par les traitements qu'ils prennent, peuvent avoir un sommeil perturbé. Mais en revanche, moi, je m'assure que quand je démarre un accompagnement, l'enfant soit en bonne santé et qu'effectivement, on parle de sujets de causes physiologiques et environnementales, clairement.
Et ça dure combien de temps ?
Ça dépend. Tu peux avoir une consultation unique qui va aussi être vectrice de changements, d'ajustements et qui vont subitement améliorer le sommeil de l'enfant. Après, des parents qui sont dans une certaine détresse parentale, qui ont besoin d'être accompagnés, voilà, peut-être sur 1 mois ou sur 15 jours. C'est très variable. La perception de l'accompagnement, elle est propre à chacun. Donc, il n'y a pas de formule type. Et surtout, c'est comment toi tu te sens au moment où tu envisages de changer les choses.
Et alors, comment tu te sens, toi, depuis que tu as fait cette reconversion professionnelle, ce changement ?
Écoute, je me sens vraiment très bien. Je me dis que voilà, tout ce cheminement, toute cette carrière dans la finance, elle était extrêmement motivante et gratifiante pendant un certain nombre d'années, mais qu'on change et qu'on n'a pas envie des mêmes choses, on n'a pas les mêmes aspirations, on n'a surtout pas les mêmes goûts. Et aujourd'hui, je fais quelque chose qui me plaît profondément. Le matin, je suis boostée par tous les parents que je vais rencontrer, que je vais potentiellement aider. Voilà, c'est une réorientation finalement de tes valeurs, de ce à quoi tu aspires. Donc pour moi, je me sens extrêmement bien aujourd'hui.
Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une femme qui annonce sa grossesse et comme toi qui se fait un peu envoyer bouler de sa société où souvent on est mise au placard?
Je dirais, alors c'est difficile de donner un conseil quand t'as essuyé un choc tel que celui que j'ai vécu, mais je dirais que le schéma familial que les mamans elles choisissent, ils regardent qu'elles, et si effectivement elles ont peur à un moment donné du retour de l'employeur, c'est que peut-être que profondément c'est pas la route qu'elles doivent prendre, et elles trouveront probablement un employeur plus empathique et peut-être plus en lien avec la personne qu'elle est. Donc ne pas avoir peur, parce que c'est se faire des nœuds à l'estomac inutilement. Je sais que moi, j'ai attendu jusqu'au point où ce soit trop visible. Donc, je pense qu'être dans quelque chose de profondément transparent et honnête paiera toujours.
Et dans le cas où ça arrive, c'est aussi se renseigner sur ses droits et prendre un avocat immédiatement.
Voilà. Dans le cas où ça arrive, de toute manière, t'as pas forcément besoin d'entamer des procédures coûteuses juridiquement parlant, parce que quand tu es enceinte, il faut savoir que tu es salarié protégé, donc tu es d'office réintégré à la masse salariale, au salarié, donc tu n'as pas de problème à ce niveau-là. Donc j'ai envie de dire, la maman sera toujours dans son bon droit et sera toujours protégée de par ce statut de salarié protégé, donc qu'elle ne s'en fasse surtout pas.
Oui. En fait, c'est plus tout l'aspect psychologique qu'il y a autour, comment les collègues vont se comporter, tout ça qui est dur, en fait.
C'est ça. Et puis, c'est surtout la culpabilité, parce qu'on se dit qu'à un moment donné, on va peut-être faire défaut à une équipe. Donc, forcément, là, c'est l'aspect collectif qui est en jeu. Donc, on se dit, on va les mettre en péril, on va les mettre en difficulté. Donc, c'est peut-être des profils empathiques qui peuvent avoir cette impression. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, il faut vivre la vie qu'on a décidé de vivre. Donc après, faut pas se brider sur des telles annonces qui devraient être finalement des moments de bonheur.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité?
Je pense que ça a tout changé finalement. Ça a tout changé. Certes, c'est extrêmement fatigant, extrêmement épuisant, mais ça a tout changé. Le bonheur que tu as au quotidien de voir tes enfants grandir, s'épanouir, c'est quand même hyper gratifiant, hyper motivant. Donc oui, ça a tout changé. Toutes les priorités, bien sûr, elles sont aussi centrées sur nos enfants. Bien sûr, on ne s'oublie pas en tant que couple, mais c'est vrai que ça a tout changé, clairement.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman toulousaine?
Alors, une maman toulousaine, on a déjà la grande chance d'avoir une météo clémente. Donc, c'est vrai que moi, la chance que j'ai, c'est peut-être d'amener mes enfants en vélo à l'école, de profiter de la météo clémente pour vraiment profiter des extérieurs.
Quel est ton endroit kid-friendly préféré à Toulouse?
Alors, à Toulouse, j'adore le parc à côté du musée des abattoirs. C'est un super parc qui borde la Garonne, donc c'est vraiment très ressourçant. Il y a beaucoup de verdure, il y a le fleuve à côté, donc c'est vraiment un bel endroit. En plus, les structures de jeu sont magnifiques là-bas, donc je dirais que c'est ça un petit peu mon endroit favori à Toulouse.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille?
Alors, mes projets rien que pour moi, c'est... début 2023, retrouver mes copines du sommeil, comme on s'appelle, parce que avec toutes mes copines de formation, on a créé un sacré groupe et on s'est vraiment, on a eu un coup de foudre amical, hein, comme on peut dire. Donc c'est réitérer un week-end entre copines sur 2023 comme on l'a fait en 2022. Et le projet de couple, c'est partir en amoureux sans doute en Corse avec mon mari.
Merci beaucoup Julie.
Merci à toi, Chani.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.